Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser.
Moi, un rendez-vous.
Rendez-vous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Nouveau.
Ce soir.
Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous, c'est l'heure du Énervé, le nouveau rendez-vous, l'émission coup double puisque ça commence dès 18h sur franceinter.fr et en podcast et puis ça recommence comme une chanson populaire et oui Benoît Lagan, 22h minuit, on passe à la radio comme tout le monde. Ce soir, rendez-vous avec la mafia sicilienne, direction Corleone, un petit village dans la province de Palerme, un petit village qui a vu naître un monstre shakespearien. Toto Riina a gravi tous les échelons de la mafia pour s'imposer comme un des chefs les plus sanguinaires sous des allures de petits paysans. Toto Riina au centre d'un formidable documentaire Corleone, le parrain des parrains signé Mosco Levibucco qui est avec nous ce soir, Benoît Lagan.
Oui, le documentaire passe ce soir sur Arte, il reste disponible sur la plateforme, c'est aussi un DVD et pour en parler avec Mosco Levibucco, on a convié deux autres journalistes et documentaristes spécialistes du grand banditisme et de la mafia, Jérôme Pierra, Sarim et Anne Véron.
Programmation live, elle est assurée cette saison, chaque soir, oui, par Marion Guilbeault.
Pas de Cosa Nostra, plutôt une Ramsa hein, pour se protéger contre une éventuelle vendetta. Il rêve d'un grand mix entre le levant et le couchant à coups de guitare surf et de derbouka. C'est le duo Mauvais Oeil.
Et puis ce sera le NRV la suite, France Inter Plus, deuxième épisode de notre série France Inter Plus de Toni Morrison ce soir. Le NRV, allez c'est parti.
France Inter, le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
Ce soir donc événement pour la rentrée d'Arte avec la diffusion de votre film documentaire Mosco Levibucco, Corleone, le parrain des parrains qui retrace un pan de l'histoire de Cosa Nostra, un moment de bascule lié à un homme, Toto Riina, le parrain des parrains, un film que vous signez 40 ans après l'année sanglante qui a marqué l'histoire du grand banditisme en Italie, 1979. Que se passe-t-il à ce moment-là précisément avec Toto Riina en 79?
Il a pris le pouvoir, Et il commence à s'attaquer aux institutions. C'est-à-dire qu'il commence l'année en tuant un journaliste, en faisant tuer un journaliste. Il poursuit l'année en tuant un politicien, mais qui voulait changer un peu les alliances politiques en s'approchant des communistes, donc Michele Reina. Puis après, il tue un commissaire qui était sur les traces de son beau-frère, Bagarella. Puis après, il tue un magistrat qui avait enquêté sur Corleone, mais bien avant d'être, enfin, dans les années 60, et qui est devenu député communiste, et puis qui est revenu à Palerme pour reprendre son métier de magistrat. Il l'élimine. Et puis, à la fin de l'année, enfin, au début de l'année 80, il élimine le frère de l'actuel président de la République italienne, Sergio Mattarella, qui était le président de la région Sicile, et qui lui aussi avait voulu, dans son programme, rendre transparent les marchés public.
C'était nouveau ça, de s'attaquer aux institutions pour la mafia?
Oui. Ligio, son mentor Ligio, l'avait déjà fait précédemment avec un procureur qui l'avait énervé, qui lui avait imposé, disons, des mesures judiciaires contraignantes. Scaglione, Pietro Scaglione. Mais à chaque fois qu'il tue, ils font circuler des bruits disant non, mais c'est une histoire de femme, c'est autre chose. Ils n'assument jamais. La mafia de Ligio, le mentor de Riina, et la mafia de Riina n'assument jamais ce qu'elle fait. Par exemple, l'assassinat de Sergio Mattarella a été très longtemps imputé à l'extrême droite. On a dit que quelqu'un de l'extrême droite est là. Bon, pour moi, je ne suis pas un spécialiste de la mafia. Pour moi, c'est les Corleone qui l'ont fait. Et les Corleone l'ont fait aussi avec l'accord ou à la demande d'un politicien qui est le fils du coiffeur de Corleone. Parce qu'il y a, si vous voulez, dans le nom que Mario Puzo donne à Marlon Brando, dans la série du parrain, il s'appelle Vito Corleone. Corleone, du bourg.
C'est un petit village, donc dans la province de Palerme.
Un bourg. 12 000 habitants. Ouais. Donc il l'appelle Corleone, parce que la mafia de Corleone est puissante, et il l'appelle Vito. Alors, il y a eu un mafieux célèbre qui s'appelait Don Vito, mais moi, j'ai toujours voulu croire que c'était Vito Ciancimino, le fils du coiffeur, qui devient le responsable de l'urbanisme à la mairie de Palerme, sans diplôme, et qui va brasser des milliards et saccager Palerme.
Alors, vous menez vraiment dans ce documentaire, on va en parler avec nos invités, un travail exceptionnel. Vous avez rencontré le procureur Ayala du maxi procès, ça on y reviendra. Il a obtenu la perpétuité pour Riina, mais aussi des repentis qui avancent, visage masqué. Combien de temps vous avez pu mettre pour avoir d'abord toute cette documentation et puis surtout convaincre ses repentis de parler.
Non, moi, je n'ai pas à les convaincre, si vous voulez. Alors, il y a une journaliste française, qui je voudrais rendre hommage, qui a écrit un livre qui s'appelle « Vie de mafia », qui avait interviewé un des repentis. Mmh. Et c'est un des repentis, sans doute parmi les plus sincères. Parce qu'en fait, Ayala, le procureur, dit « Non, ce ne sont pas des repentis. » Parce que même Bouchette, il n'a jamais regretté d'être mafieux. Il dit « Non, je reste mafieux, c'est Rina qui a trahi la mafia. » Bon. Donc, ce sont des collaborateurs de justice. C'est-à-dire qu'ils signent un pacte avec la justice en échange d'informations, mais véridiques. Ils obtiennent un aménagement de leur peine. Et certains, aujourd'hui, sont libres.
Sous une autre identité.
Sous une autre identité, quelque part en Italie. Et ils sont gérés par un service de protection.
Et c'est comme ça que vous les avez rencontrés ?
Voilà. Alors, si vous voulez, Delphine Saubert, elle interroge Anselmo dans un livre qui s'appelle « Vie de mafia ». Ouais. Donc, je l'ai vu. Elle m'a dit qu'il y avait un magistrat formidable qui pouvait être à l'écoute, c'est Maurizio De Lucia. Donc je l'ai vu et j'ai fait des demandes successives, mais on peut pas vous répondre dans les mois qui suivent. Souvent les demandes se perdent d'ailleurs, donc il faut relancer la secrétaire, etc. Et donc l'idéal c'était de les rencontrer. Après quoi, si la commission qui s'occupe d'eux est d'accord, il faut demander aux repentis s'ils sont d'accord. Bon, par exemple Brusca en général dit non. Pourquoi il a dit oui? Je n'en sais rien. Parce que il a dit oui. Non, à mon avis, parce que je suis étranger. Je pense que si Anne l'avait demandé, elle l'aurait obtenu également. Si vous voulez, c'était un moment bien précis. Il fallait être étranger parce que dès qu'un Italien demande la permission, ça crée des polémiques. Il s'est dit, je peux avec un étranger transmettre un message. Et il a voulu transmettre un message. Donc, il l'a accepté. Le problème pour moi, c'était si possible d'éviter l'interview. C'est-à-dire de ne pas avoir une journée de tournage, on se serre la main, on ne revient pas. Donc j'ai voulu créer une relation. Et de fait, je suis obligé de le dire, j'ai une relation avec eux maintenant. Donc on s'écrit, un repenti que Anne connaît bien m'envoie pratiquement tous les soirs, comment on appelle ça, ces images-là, vous savez, où il vous dit bonne nuit, ouais. Bonne Pâques, bon Noël, etc.
Des smileys.
Voilà, des smileys. Bon, il a besoin d'affection.
C'est qui, vous le connaissez? Anne Véron.
Ah, oui. Ah, bah,
oui. Anne Véron.
Oui, c'est Gaspare Buttolo, c'est voilà. un des proches de Totorina, voilà. Un des premiers repentis dans les années 92.
Voilà. Il a été en cellule avec Rina quand c'était un petit voleur, etc. Et puis après, il a défendu Rina en prison quand il a eu des problèmes, parce que Rina un jour a été, on lui a manqué de respect.
Ah ça, le respect, on ne pardonne pas.
Ouais, on pardonne
ça,
pas.
C'est vraiment
et
toute Buttolo l'histoire du respect.
A voulu faire le, il n'a pas fait le coup de tête, mais quelque chose de semblable. Donc ils sont devenus très proches. Et puis Buttolo dit une chose incroyable, enfin très drôle. En tout cas, c'est que il jouait aux dames ou aux échecs en cellule et qu'il le laissait toujours gagner. Donc du coup, Rina l'avait à la bonne.
Vous avez regardé, bien sûr. Vous avez vu, je vous ai vu hier, Jérôme Pierra, à la projection du film pour Arte. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué, vous qui êtes un spécialiste de la mafia? Qu'est-ce qui vous a le plus intéressé dans ce documentaire?
Ce qui m'intéresse toujours dans ce type de film, c'est la parole de ces gens. Le procureur, il est formidable.
Formidable.
Moi, ce qui m'intéresse, pour essayer de travailler de cette manière-là aussi, c'est d'essayer d'aller voir le loup plutôt que celui qui a vu le loup. Et là, j'ai trouvé que c'était très très fort. Enfin voilà, que la parole de ces gens était c'est autre que je veux dire, hein, presque touchante. Non, mais c'était humain. C'est-à-dire, on n'est pas dans effectivement une interview. Avec... Ces types sont humains. Alors après, effectivement, on en discutait tout à l'heure. C'est presque pas assez bien vendu. Non, mais ça, c'est du marketing, c'est pas votre film. Hein.
Ça veut dire quoi, Jean-Pierre?
Parce que c'est assez exceptionnel, donc
ah bah,
ça méritait d'être, de faire monter.
Ah bah, c'est vraiment un événement.
La sauce, mais ça, c'est pas, voilà, c'est plutôt de la promo et de la com, mais oui, d'entendre Bouchette ou, enfin voilà, des gens comme ça, c'est assez, donc c'est ça qui m'a marqué dans ce film, hein, oui.
Anne Véron?
Oui, Brusca. Ben pour moi, je suis italienne et je m'intéresse à ce sujet. Et Brusca, pour nous, c'est vraiment. C'est,
qui est Brusca alors?
Giovanni Brusca. Pour moi, c'est l'émotion plus grande. C'était de regarder ce film et de voir Giovanni Brusca qui a jamais parlé, sauf dans un livre avec Saverio Lodato, un journaliste, il y a longtemps, en 92, 93, enfin en 96, 97 plutôt. C'est la première fois qu'il parle et pour nous, en Italie, Giovanni Brusca, c'est le monstre.
Le boucher.
C'est le monstre.
C'est le boucher.
C'est non seulement celui qui a appuyé sur la gâchette de Giovanni Falcone et qui a tué Giovanni Falcone.
Le juge Falcone qui a poursuivi Rina et qui a pu mener à bien le procès, le maxi procès.
Mais c'est celui qui a fait les crimes les plus terribles de la mafia et dont le petit Di Matteo, un garçon de 15 ans, de 13 ans, qu'il a séquestré pendant 2 ans avant de le faire dissoudre dans l'acide, avant de l'étrangler, de le faire dissoudre dans l'acide. Donc, en Italie, Brusca, c'est synonyme de monstre. Donc c'est vraiment, j'ai eu beaucoup de gens italiens au téléphone, de journalistes, des choses comme ça, qui ont su justement qu'il avait parlé, parce que vous avez réussi à garder très secret.
Non, par exemple, je sais que quand le film est passé au Festival de
Moscou,
Rome,
Olivier Boucaud, ouais.
Quand le film est passé au Festival de Rome, on m'a demandé des extraits de Brusca, et j'ai dit non. C'est pas un film sur Brusca, c'est pas,
non.
Parce que tout le monde voulait l'extrait de Brusca. Il l'avait jamais vu parler, il n'a jamais entendu sa voix, etc.
C'est symboliquement très important.
Voilà, mais pour moi, comment dire, en plus, je vais vous dire très franchement une chose. Quand Brusca est arrivé dans le couloir de la prison, je ne l'ai pas reconnu. C'est un petit bonhomme, on dirait un curé. Donc, parce que je pensais me trouver devant le boucher, parce qu'on a la photo de lui arrêté.
Ouais.
C'est un homme assez imposant.
Très.
Et là, je retrouve un petit bonhomme qui arrive avec une thermos et qui m'offre du café. Donc, franchement, je lui dis, mais c'est vous, Brusca? Bon. Et la chance que j'ai eue, si vous voulez, c'est que on m'avait dit que je resterais une journée. Et j'ai obtenu 8.
J'ai cru que vous alliez dire perpète.
Non. Non, fait peur. Mais je suis prêt à passer la peur. Non, parce que c'est confus ce qu'il raconte. Donc, il faut revenir, il faut. Mais c'est vraiment. Alors, il faut que je vous dise autre chose aussi. C'est un monsieur qui a un fils, qui est à l'université.
Ouais.
Et il suit les études de son fils avec, comme un père d'aujourd'hui, si vous voulez. C'est plus le mafieux, c'est le père de son fils. Donc, si vous voulez.
Mais ils étaient tous le père de leur fils, de toute façon.
Oui, d'ailleurs, je vais vous dire une chose. Anselmo, par exemple, il avait une entreprise de plomberie. Il portait ses 2 filles à l'école privée. Et puis il recevait un coup de fil, il faut qu'on aille tuer un tel, et il y allait. Donc il avait trois vies.
Voilà, oui, il raconte ça. Il dit qu'ensuite il allait au café, et puis qu'il fallait recommencer de tuer quelqu'un.
Il recommençait, etc. Bon, donc si vous voulez, mais moi, plus que Brusca, si Brusca c'est important, mais.
Mais plus que Brusca, c'est.
C'est Marquez qui m'impressionne.
Qui est Marquez?
Alors Marquez, c'est un membre d'une famille terrible de la mafia de Palerme, derrière la gare, le Corso dei Mille. Son oncle était vraiment plus qu'un boucher, un sadique, qui faisait arrêter des alliés, des membres de sa famille, qui les faisait prendre, porter dans ce qu'ils appelaient la chambre de la mort. Et là, il les faisait asseoir, il les interrogeait. Et lui était un cocaïnomane et plus que ça, malheureusement, parce que les repentis le racontaient. Il se masturbait pendant les scènes de torture. Et il se masturbait ouvertement. Et lui, donc ça, c'était l'oncle. Marquez est le neveu, donc, est par alliance lié à Rina. Parce que la sœur de Marquez, a épousé le beau-frère de Rina. Donc, le frère de sa femme.
Ouais.
Et c'est une histoire tragique. Franchement, c'est pour ça que ça m'a plu aussi, parce qu'il y a un côté shakespearien dans cette affaire.
Complètement.
Parce que sa sœur s'est pendue. S'est suicidée. On ne sait pas où est son corps. Elle s'est suicidée soit parce que le frère s'est repenti, soit parce qu'elle n'a pas donné d'enfant à son mari. Mais vous voyez, comment dire, ce sont des histoires très denses, très nouées, très, très sombres, très complexes aussi. D'ailleurs, pour revenir à Rina, au départ, si vous voulez, bon, fils d'un paysan avec une petite lopin de terre, mais il vit la mort de son père à 100 mètres.
Oui, c'est ça. Son père trouve un obus et il le ramène chez lui pour pouvoir utiliser la poudre et le métal. Et l'obus lui explose à la gueule et en fin de compte...
Et tue lui et son petit frère.
Et son petit frère.
Et son petit frère. Et il se retrouve, si vous voulez, devant la tombe de son père, avec la mère enceinte devant la tombe.
D'une petite fille.
D'une petite fille. Et donc, si vous voulez...
Ça n'excuse rien.
Non.
Mais
non.
Ça explique le cheminement.
Non, mais si vous voulez, la mort lui est déjà familière, si vous voulez. C'est un paysan, donc on tue les cochons, etc. Et il subit la mort. Ça n'excuse absolument rien. À 19 ans, quand il a son premier meurtre.
Premier meurtre, 19
ans. C'est un meurtre d'un type qui la roule, quoi. Qui veut démontrer qu'il peut être il peut entrer dans la bande à Ligio, qui est le bras droit du boss de Corleone.
Alors, on va rentrer plus encore dans l'histoire de la mafia avec nos invités, mais je vous sais grand admirateur du film Le Parrain, vous l'avez cité tout à l'heure, et le nom de Vito Corleone, c'est un clin d'œil donc à ce village sicilien. Et parmi les repentis que l'on voit dans votre film, il y en a un qui nous parle du film, justement, et notre réalisatrice Marion Lelay a monté un extrait du film de Coppola et de votre documentaire.
Hey Michael, Tiens, viens donc que je t'apprenne un truc. On sait jamais, un jour il faudra peut-être que tu fasses la tambouille. Tiens, regarde, d'abord tu verses une petite goutte d'huile, tu fais frire une petite pointe d'ail, tu rajoutes deux ou trois belles tomates, après tu verses le coulis. Tu fais revenir, mais sans que ça attache.
Vous avez vu le parrain? La scène où on les voit réunis. Le gros qui prépare les pâtes à la sauce tomate et aux saucisses.
T'attends que ça bouille, tu rajoutes les saucisses et puis les boulettes de viande.
Chez nous, c'était pareil.
Voilà.
Dans notre repère, il y avait un homme qui cuisinait, un autre qui faisait les courses, et nous, prêts à bondir dans une voiture pour aller tuer ceux qu'on nous avait balancés.
Je veux que tu lui règles son compte à cet enfant de putain et tout de suite. C'est lui qui a vendu papa. Ce fumier, je veux plus le voir ici. Tu le marques en tête de liste, d'accord?
Allez, je m'en occupe.
C'est un hommage donc à Coppola. C'est Coppola qui vous a donné envie de faire ce film sur le parrain des parrains.
Bah, c'est Coppola qui est en quelque sorte à l'origine de ça. Parce que Corleone, pour moi, c'était Marlon Brando, si vous voulez. Et j'en ai parlé un jour avec un protagoniste de la lutte contre la mafia, Giuseppe Cucchiara, sicilien, fils d'un magistrat. Et on parlait du parrain. Et lui me laissait parler. Et puis à un moment donné, il m'a dit, pour moi, Corleone, je suis désolé de te le dire, c'est une horde de sanguinaires, une horde de jeux de barbares. Donc j'ai voulu savoir pourquoi il me disait ça. Donc j'ai commencé à lire, si vous voulez. Il y a des spécialistes de la mafia sicilienne, il y a des grands journalistes dont c'est la vie. Si vous voulez, Attilio Bolzoni, Giuseppe D'Avanzo, ce sont des noms. Bon, ils ne parlent pas ici, bien qu'Attilio Bolzoni a écrit un livre qui a été joué au théâtre ici. Francesco Lalicata, Saverio Lodato. Si vous voulez, il y a des spécialistes. Donc j'ai commencé à lire. Et puis, je suis allé m'installer à Palerme pour lire les journaux communistes de l'époque. Pour moi, c'était les choses. C'est un sort de mélange de l'humanité et de François. Et c'était le journal qui luttait contre la mafia.
On a grandi comme les princes de la ville, fou comme prince de Bel-Air. Flo Corvette Ford Mustang, dans la légende. La police d'une assise étoile, à toujours se dire Bellec. Trop gentil comme Cody, sentiment dans la salle du temps. Il était une fois deux frères, deux fauves, deux trous dans le cerveau, poteau de père. Conditionné au fond d'un hall sur une chaise, emprisonné des rêves qui brisent plus d'une chaîne. Esprit de gosse caché derrière le fait, pris d'ambition en stagnant devant LV. Salaire de bas que chaque soir dans les Nike. Bénéf de la bœuf qui part dans le mic. On a grandi comme les princes de la ville, les rois du hall. Dans le ciel pas plus d'une étoile, en face du trône. Des grammes, des kills de peine mènent dans le bain. Deux frères, deux fauves, le M. Deux frères, deux frères, deux frères. Deux frères, F, M, deux frères, F, M, deux frères.
Bah écoute ces fils de pute, tu parles là pour être aimé, faudra t'y faire à l'idée. Rien à foutre, c'est qu'un temps des boîtes sera de merde, tout ce qui t'aura validé. Même plus besoin de viscère, de la qualité, de la PVR. De la force au calme, ok, allez c'est l'heure. Grandi dans le zoo, je suis vécu dans la jungle, pas de grand frère. Papa nous a connu tête contre tête, nous a dit je veux un amour en fer. Personne d'entre vous, même pas moi, même pas les anges de l'enfer. J'ai aimé mon frère plus que ma vie, comme me l'a appris mon père. Chaque rêve, chaque cauchemar, chaque ennemi, chaque euro partagé. À part le nombre de cicatrices, rien ne va changer. Dans le même miroir, on s'est regardé. Même dans les mêmes trous noirs, on s'est égaré. Quand des petits, on avait les mêmes sables, plus grands, les mêmes armes. Même Niax, même terrain, Igo, les mêmes Schlagbo. Jamais les mêmes femmes, moi c'était les belles blondes. Lui, les vénézuéliennes, moi dehors, lui qui tombe. Rien ne nous sépare, même pas nos bitches. Tout ce que je prends, je te le donne un peu comme envie. Qui sait ce que je vis, que moi qui sait ce que tu vis.
On s'est dit c'est l'heure de les baiser si on fusionnait.
Deux frères. Bah écoute ces fils de pute, tu parles pour être aimé, faudra t'y faire aliter. Rien à foutre, c'est qu'atteindre des boîtes sera de merde, tout qui t'aura validé. Même plus besoin de viscère, ta qualité d'un PVR. De la force au calme, ok, allez, c'est l'heure.
Le trafic, la cité en version autotunée par les deux frères de PNL. Et oui, eux aussi, ils ont le sens de la famille. Respect.
Le nouveau rendez-vous.
C'est comme une école.
Une
école où tu n'étudies pas avec les livres. Mais une école où tu observes. Tu observes chaque geste que fait un mafioso. Tu étudies les attitudes du mafioso.
Laurent Goumard.
Et comme on dit, qui fréquente un boiteux finit par boiter. Je tuais sans même y réfléchir deux minutes. Il faut tuer celui-là, tuons-le, et au suivant. Je ne cherchais pas à savoir pourquoi. Il fallait le tuer, pas besoin d'explication. J'étais apprécié de Cosa Nostra parce que je ne posais pas de questions.
Sur France Inter.
Le NRV à l'école de la mafia sicilienne ce soir dans le NRV à l'occasion de la diffusion sur Arte d'un documentaire exceptionnel Corleone en deux parties, Le pouvoir par le sang, la chute. Un documentaire signé Mosco Levi-Boucco qui est notre invité avec à ses côtés deux spécialistes du grand banditisme, Jérôme Pierrat et Anne Véron. Jérôme Pierrat, on vient d'entendre à l'instant donc parmi les témoignages des repentis, celui qui parle de l'école de la mafia. Comment entre-t-on en général dans le monde de la mafia?
J'imagine qu'il y a plusieurs. Sicile,
bah, moi, c'est toujours la même chose en Sicile.
J'ai un peu l'impression
Russie,
que c'est toujours un peu le même truc parce que j'ai pas passé tant de temps en Sicile que Moscou, mais j'ai, par exemple, j'avais passé pas mal de temps au Japon au sein d'une organisation. Et finalement, c'était un peu les mêmes modes de recrutement, c'est-à-dire les jeunes instables du coin et du quartier qui sont
recrutés,
repérés par les hommes d'honneur là-bas, où sont les yakuza, ça peut être d'autres gens ailleurs, et puis qui ont cette faculté d'observation et de détection, et puis qui regardent un peu dans le quartier qui est un garçon, mais il suffit pas d'être délinquant, il faut avoir quelques qualités, bon, voilà, autres que celles-ci. Et donc c'était exactement ce principe-là, c'est-à-dire qu'on détectait les forces vives du coin et puis on essayait de les éduquer après en leur lavant plus ou moins le cerveau, c'est ce qu'ils racontent. Il y a une espèce d'embrigadement sectaire, puisqu'on est tellement coupé, même s'ils vivent dans la société civile à côté, ce qui est quand même pas mal la différence avec d'autres organisations, il y a quand même un mode de pensée qui est, enfin, enfermé dans une bulle avec un curseur qui est complètement déplacé, etc. C'est ce qu'on voit. Donc, plus on s'enfonce là-dedans, année après année.
Et puis, ce qu'on voit, c'est que c'est aussi un ascenseur social, Anne Véron, de rentrer dans la mafia. Il y a un des témoins dans le documentaire de Moscou qui dit, je n'étais rien dans mon village, du coup, c'est pour ça que je rentre dans la mafia. Au moins, là, je devenais quelqu'un.
Oui, pour ajouter juste à ça, il y a une exception en Italie, c'est Andrangheta, où c'est une mafia de sang. Là, c'est que de la famille. Alors qu'en Sicile, dans toutes les autres, c'est en effet les jeunes du quartier qui sont recrutés. Dans l'Andrangheta, la mafia calabraise, c'est purement des familles de sang. Donc, le rituel est assez différent. Mais pour l'ascenseur social, oui, moi je me rappelle justement de Mutolo qui m'avait raconté le jour où il avait fait son intronisation, où il est devenu associé avec tout le rituel. Et il disait le lendemain, il dit pendant 7 jours, pendant une semaine, je planais, j'avais l'impression d'être au-dessus de tout, au-dessus de tout le monde. Je devais changer d'amis, je pouvais plus fréquenter les mêmes personnes, tout le monde me respectait, et il dit, on a l'impression d'être dans une sorte de transe, et c'est vraiment au-dessus même de Dieu. Il dit, on est vraiment dans quelque chose de, ils arrivent à rendre quelque chose de complètement mystique. Et il avait raconté, voilà, la force de ce baptême, qu'ils appellent Et l'importance et l'ascenseur social, parce que lui c'était qu'un petit voleur de rien du tout, Mutolo, il était vraiment pas grand chose à la base, et il est devenu
celui qu'on connaît par la suite. Oui. Alors ce qui est intéressant
par rapport à l'embrigadement, la bulle, il y a une différence quand même en Sicile, c'est le rôle de l'Église. C'est que l'Église pendant très très longtemps a nié l'existence de la mafia. Elle disait ce sont des inventions des journalistes communistes, et donc l'Église en quelque sorte Ils se soutenaient mutuellement. Par exemple, Brusca, qui commettait des crimes, donnait de l'argent pour les processions, etc. Et le rôle de l'Église a été très important. Les politiciens aussi. C'est-à-dire que la mafia donnait des voix aux politiciens, en échange de quoi
Notamment la démocratie chrétienne. Voilà. La démocratie chrétienne était mouillée avec la mafia. Totalement. Ce qui est intéressant par rapport à l'Église, c'est aussi le tout début de la mafia. Parce que moi, j'ai appris plein de choses, notamment dans le premier, Le pouvoir par le sang. Les origines donc paysannes de cette mafia, c'est-à-dire les mafiosos, c'était les hommes que l'on respectait. Et c'est ceux qui gardaient, on va dire, les propriétés des nobles qui, eux, vivaient à Palerme et qui faisaient en sorte de faire tout fonctionner, de mettre les paysans sous leur coupe, etc. Mais c'était des gens très respecté, très catholique, craint et très catholique, puisque même pendant les processions s'arrêtaient devant la porte de ces gens-là.
Mais à l'époque, le boss de Corleone, c'est le directeur de l'hôpital.
Exactement, un des premiers, c'est Navarra, celui qui va être exécuté d'ailleurs par son bras droit, qui va être dénoncé plus tard
par Rina.
Exactement.
Et ça existe encore dans des villages en campagne, etc. Oui, de moins en moins, parce que elles sont de plus en plus filmées, de plus en plus critiquées, donc ça se fait de plus en plus discrètement, mais ça existe encore, et il y a de nombreuses vidéos qui sont incroyables, où il y en a une dans un village en campagne, près de Naples, où le maire avait menacé de s'en aller de la procession si il s'arrêtait devant le balcon du mafieux. La procession s'arrêtait devant le balcon du mafieux qui était en robe de chambre. Et qui a attendu comme ça, et puis on voit le maire qui enlève son écharpe, qui s'en va avec personne qui le regarde. Et qui,
encore aujourd'hui, oui.
Et ça, c'est une vidéo d'il y a 3 ans.
Oui, mais d'ailleurs, là, il y a 2 prêtres palermitains qui viennent de monter un observatoire destiné à dénoncer les collusions entre mafia et Église catholique, notamment en Sicile, et qui veulent justement répertorier et balancer toutes les processions religieuses où on fait. Voilà, là, il y a quelques mois, ça vient de. Je ne sais pas si ça aura un grand écho, mais. Bon,
non, mais le rôle de l'Église est grave parce que c'est surtout le seul, vu que le gouvernement, l'Italie est neuve et le gouvernement Rome n'a pas de pouvoir culturel dans ces pays-là, dans ces zones-là. Sicile, c'est le seul vrai pouvoir qui existe, c'était l'Église, et c'est le seul qui aurait eu vraiment un impact important sur la société.
Ceci dit, ça a changé, mais je reviens sur l'usage de la religion. Par exemple, aujourd'hui encore, Salvini, l'homme de l'extrême droite italienne, la Lega, lui brandit la croix tout le temps. Et le pape a dû lui dire, enfin le pape ou le conseil, lui a dit, il faut arrêter d'utiliser les symboles de l'Église à vos fins politiques, si vous voulez. Pour revenir, il y a eu un changement avec l'archevêque de Palerme. Il y a un archevêque qui disait « elle n'existe pas, c'est une invention », Ruffini, dont le frère était ministre de la Défense. Mais il y a eu un archevêque, Pappalardo, qui lui, alors quand il y avait des homélies de gens que la mafia venait d'assassiner, reprochait à Rome et aux politiciens de Rome de laisser faire. Et puis, moi, il y a un discours, moi je suis athée, mais il y a un discours d'un pape, Jean-Paul II, quand il va à Agrigente, il improvise un discours où il dit aux mafieux, il leur dit pas « agenouillez-vous », mais il leur dit grossièrement « vous n'êtes pas des chrétiens, vous n'êtes pas des chrétiens ». Et c'est un discours, il n'est pas écrit, il l'improvise parce qu'il vient d'apprendre qu'ils ont abattu un juge et son fils. Et c'est un discours exceptionnel. Et aujourd'hui, le pape François, pareil, il a excommunié des mafieux en Calabre. Donc ça a changé un peu.
C'est
doucement.
L'univers de la mafia, notamment en Sicile, c'est très masculin. Dans votre film,
que des hommes qui
témoignent, à l'exception d'une photographe. Hein, voilà, il y a quand même une femme dans le film. Mais les femmes, vous qui avez travaillé, Anne Véron, sur les femmes dans la mafia, quel rôle elles ont? Vous avez dit dans une interview que j'ai retrouvée que sans les femmes, la mafia n'aurait pas pu exister.
Oui, c'est ce que dit tout le monde. La mafia, elle n'existerait pas sans les femmes, parce que c'est dans les règles de la mafia, il y a écrit que les femmes ne peuvent pas être baptisées, ne peuvent pas devenir officiellement intronisées, voilà, associées. Mais elles le sont en se mariant avec leur mari, en déclarant fidélité à leur mari. Elles déclarent fidélité à l'organisation mafieuse, et elles ont toujours joué un rôle important, que ce soit de messagères quand ils étaient quand ils sont en cavale, que ce soit. Donc elles ont toujours joué et surtout de gardienne en fait des valeurs de la mafia.
Et encore aujourd'hui,
et de transmettre aux enfants en fait, parce que très souvent les à une époque dans les années 80, même s'ils étaient en cavale, ils restaient en famille. Aujourd'hui, dans les années 90, depuis que la lutte à la mafia est plus forte, les maris sont, il y a des histoires de maris qui sont jamais là, qui sont ou en cavale ou en prison, et dont les enfants n'ont jamais vu pratiquement leurs parents ou leurs pères, selon derrière le vide. Et pourtant, ils deviennent des mafieux exactement comme leurs pères, en imitant qu'on pleure. Donc, qui est-ce qui transmet ça? C'est le rôle de la femme. et la justice depuis les années 90.
Mais des chefs de bande de femmes, il y en a pas dans la mafia, même dans les autres pays.
Quand il y en a, c'est toujours par intérim. C'est-à-dire
ils assument l'intérim.
Ils assument l'intérim le temps que le conjoint sorte de prison. Généralement c'est ça. Mais vous le trouvez d'ailleurs. Oui, on trouve ça au Japon, ailleurs, en Amérique latine, etc. Ouais. Mais c'est jamais une voilà.
D'ailleurs, pour Rina.
Rina, donc.
Rina, au départ, n'appartient pas à une famille mafieuse traditionnelle.
Pas du tout. Non, paysanne.
C'est son épouse. Par contre, Ninetta Bagarella, institutrice, qui appartient à une famille mafieuse de Corleone traditionnelle. Et on dit que. Elle a un rôle, quand même. Son frère était un tueur impitoyable, Leo Luca Bagarella. Il tue le chef de la police judiciaire de Palerme en entrant dans le bar et il le tue avec une balle dans le dos. Tout ça parce qu'il a découvert dans une perquisition une photo du mariage de Rina avec sa femme. La femme de Rina, c'est un mystère. C'est un mystère.
Elle est toujours en vie ?
Oui, elle est en vie. Mmh.
Vous avez cherché à la rencontrer ?
Non, je pense que c'est inutile parce que, vous voyez, par exemple, aujourd'hui, sur la tombe de Rina, ils ont apposé une photo de lui souriant en crooner, on dirait George Clooney, sur la tombe, c'est souriant, surtout avec une cravate. C'est impossible, cette photo n'existe pas, c'est du Photoshop. Je le vois pas, alors qu'il est recherché par toutes les polices d'Italie, entrer chez un photographe et poser comme il apparaît sur cette photo. C'est une photo où il doit avoir 55, 60 ans. En plus, ils ont posé maintenant, mais c'est récent, hein. Ils ont déposé sur sa tombe, vous savez, un nain de jardin. Mais ils ont le nain de jardin, c'est Padre Pio, qui est le saint des saints en Italie. Il y a Padre Pio, il est partout, si vous voulez.
Et c'est un nain de jardin.
Mais c'est tout petit.
Ah oui, d'accord. C'est l'équivalent d'un nain de jardin. Ouais, je me suis dit, mais de quel pays formidable.
Non, mais si vous voulez, ce sont les femmes qui tentent de, en quelque sorte, de faire une œuvre de révisionnisme, de blanchiment de l'histoire, si vous voulez. Ils veulent dire, mais non, mais Rina, c'était un bon père.
Bah, d'ailleurs, c'est ce qu'il racontait à son procès. C'est comme ça qu'il apparaît. Bon père, paysan,
chrétien, petit
entrepreneur, croyant, qui n'a jamais tué personne. Et la drogue, c'est vraiment très mauvais pour les jeunes, comme pour les vieux. C'est vraiment génial.
Non, et puis ce qui est assez incroyable aussi de Ninetta Bagarella, c'est qu'en 93, quand Totò Riina se fait arrêter, et qu'elle est encore avec ses enfants, les deux fils ne sont pas encore en prison, et elle décide de rentrer à Corleone, au lieu de partir et de faire une autre vie, et de se détacher de ça. Elle envoie un symbole très fort en rentrant à Corleone, en continuant d'asseoir le pouvoir de son mari. Et les deux enfants seront, un perpétuité, un 18 ans, il prend de la perpétuité, il est encore en prison, et l'autre, il sera majeur. Il était mineur à l'époque, donc il fera que 8 ans. Mais donc, en continuant à laisser ses fils dans le crime.
Qu'est-ce que représente Rina véritablement dans l'histoire de la mafia sicilienne?
Qu'est-ce qu'il bascule avec lui? Bah, il tue. Il tue comme
les autres aussi.
Si vous voulez, la mafia par excellence. La mafia sicilienne, elle s'infiltre, elle est clandestine. Ayala le dit très bien.
C'est le procureur, oui.
Voilà, Ayala dit, si vous voulez, un meurtre, les projecteurs sont braqués sur, si vous tuez dans un quartier, les projecteurs s'allument, les carabiniers arrivent, et vous pouvez plus faire du business sous, comme ils disent. Bon. Donc, si vous voulez, Rina, c'est à la fois l'homme qui intrigue, qui infiltre. Il sait placer un homme dans chaque famille adverse. Donc, il sait ce qui se passe, et il sait les manipuler. Si tu tues ton chef, tu prendras sa place. Et, finalement, lui aussi va tomber par, il y a quelque chose de stalinien. On élimine les uns après les autres.
Anne Véron.
Non, et Mutolo dit, il a expliqué une fois, expliquer bien ce qui était Rina, il dit avant la mafia, quand quelqu'un dérangeait, que ce soit un magistrat, un policier, la mafia était assez forte pour la mettre au placard, pour l'envoyer quelque part, etc. Rina, il est arrivé, il a dit, moi, je tue, comme ça, personne ne voudra prendre sa place. Mais ça, c'était
terrorisé, si vous voulez. Voilà. C'est un terroriste, un leader terroriste.
Un tragédien, comme dit le commissaire.
Mais Jérôme Pierrat, dans l'international du grand banditisme, est-ce qu'il représente quelque chose, Totò Riina, pour les, dans vous avez parcouru quel pays?
C'est
une gloire locale.
En Europe, oui, mais si vous allez, on préfère El Chapo ou Pablo Escobar il y a des gens qui ont plus de renommée à l'international. La mafia sicilienne, elle reste mythique parce que c'est la plus connue, parce que c'est la plus cinématographique, c'est la plus voilà, la plus racontée jusqu'à ces dernières années. Mais non, ça n'est pas un étalon d'atrocité. Il y a des types beaucoup plus horribles en Amérique latine, ou enfin bon, plus horribles. Je sais pas s'il faut faire une échelle de tout ça, mais en tout cas,
pas mal, quand même.
Voilà, voilà, dans le genre, il y a des équivalents ailleurs. C'est ça que je veux dire. C'est pas une exception dans exception dans la mafia sicilienne, voilà.
Mais pas ailleurs.
Mais dans le nord, les cartels mexicains, etc., ont dépassé en horreur ce. Voilà.
I don't know where I'm going, but I know what I'm showing. Feelings, that's what I'm pulling. What the fuck is your motive? Man, I wish you would call me by your name, cause I'm sorry. This is not apology, you are such a distraction. That's what Tiana are, fucking up my ambiance. Pause, you drive me cuckoo and I call, cause I want you like Leon. Wah,
fuck that.
Okay, say it then.
Fuck that.
Okay, wait a minute, I drip that shit, I am on. Walk curiosity, keep the feline gone.
I think I'm falling.
Think, signé par Tyler, The Creator, un rappeur californien, un extrait de son nouvel album Igor, la programmation des cartes. Oui, c'est pour I Think, hein, de Jean-Baptiste Audibert.
Dentro Cosa Nostra, ci sono delle regole, queste regole vengono...
Cosa Nostra a des règles qu'on nous explique lors de la cérémonie d'initiation.
Ci sono delle regole, diciamo, che sono...
La violation de ces règles entraîne des sanctions. Certaines, disons acceptables, et d'autres qui peuvent aller jusqu'à la mort. Faire l'indicateur pour la police est une transgression qui conduit à la mort. Être marié et avoir une liaison avec la femme, la fille, la sœur d'un autre homme d'honneur vous conduit à la mort. Se battre, s'injurier avec un autre homme d'honneur vous conduit à la mort.
Ce sont des salopards, mais ils ont le code de l'honneur. Énervé ce soir, on a le code de l'honneur sur France Inter à propos de la diffusion sur Arte de votre documentaire Corleone, le parrain des parrains, Moscolevi Bucco. Avec nous, deux journalistes spécialistes du grand banditisme, Jérôme Pierra et Anne Véron. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir comment l'État a traité ou n'a pas traité justement cette histoire de mafia. On en est où aujourd'hui dans le rôle de l'État par rapport à la mafia sicilienne?
Anne va vous expliquer ça, parce qu'elle connaît mieux la situation aujourd'hui.
Non, la situation aujourd'hui, elle est, bah, il y a juste le, enfin, il y a eu le procès État Mafia qui a duré plusieurs années et qui s'est, dans la première instance, qui doit passer maintenant les différents degrés d'instance, mais en première instance, qui a établi qu'il y a eu une négociation entre l'État et la mafia en 93 pour rendre Rina et arrêter le massacre et arrêter le bain de sang en échange de, du calme et de, donc ça c'est ce qui est établi aujourd'hui processuellement, mais en première instance, voilà, qui était.
C'est compliqué, cette histoire. Moi, ce que j'ai dit beaucoup. Alors, c'est, ouais. C'est compliqué, si vous voulez. Quand, d'abord, pour ce qui est d'aujourd'hui, la police et les carabiniers et la Guardia di Finanza, qui est l'équivalent de la police financière, disons, ouais, ont des moyens techniques exceptionnels. Hier soir, par exemple, il y a un journaliste sicilien qui a raconté qu'autrefois, quand la commission était élue, elle pouvait régner 10 ans. Aujourd'hui, à peine une commission se constitue pour gérer Cosa Nostra, au bout d'un mois, c'est fini. Parce que, avec les écoutes, avec les micros, etc., ils arrivent à les arrêter. Et d'ailleurs, l'année dernière, un bijoutier palermitain de 80 ans a essayé de reconstituer la coupole et a été arrêté au bout d'un mois. Donc ils ont tous été rafés. Ça, c'est pour le rôle aujourd'hui. Aujourd'hui, la police italienne, ouais, la magistrature italienne est exemplaire. Et dans le cas de la magistrature, si vous voulez, quand la mafia tue Falcone,
Falcone, donc, qui était le juge qui a mené une guerre
et qui a surtout condamné à perpétuité Rina. C'est-à-dire que si Rina était trouvée et arrêtée, il ne sortait de prison que mort. Et donc, il a toujours pensé qu'il allait pouvoir casser la perpétuité de Falcone. Il ne l'a pas cassée. Quand ça a été confirmé, il a d'abord tué le maire mafieux qui faisait la liaison entre Rome et Palerme, au nom de la démocratie chrétienne. Il l'a tué et achevé avec une balle, fait achever avec une balle dans la nuque. Ensuite, il a tué Falcone. Oui. Et après, donc, deux carabiniers, mais très haut placés, à l'instigation de qui on pense que des gens se sont demandé, des politiciens siciliens se sont dit, mais qui sera le suivant? Essayez de voir ce qu'on peut faire. Donc, ils entrent en relation avec le fameux fils du coiffeur, Vito Ciancimino, l'adjoint au maire qui s'occupait d'urbanisme, et il lui demande « Qu'est-ce que vous voulez en échange de l'arrêt des hostilités ?» D'accord ?
Ouais.
Là, ils reçoivent, paraît-il, une réponse. C'est un papello, et Mutolo dit qu'un papello, c'était une série de demandes que vous ne pouvez pas refuser. Parmi ces demandes, il y avait donc de casser la perpétuité du maxi-procès. Comme il y a une négociation, qu'est-ce que vous voulez en échange de, et qu'on le refuse, le papel, là, au début. L'État dit non, les carabiniers disent non, on ne peut pas faire ça. À ce moment-là, tout de suite, très vite, il tue Borsellino. Et l'accusation dont parle Anne, du procureur Di Matteo, entre autres, c'est de dire, parce que vous avez entamé des négociations, vous êtes responsable de la mort de Borsellino, puisqu'il entre dans la négociation. C'est comme une partie de poker. Je surenchéris en tuant Borsellino. Mmh. Tout le procès là, en première instance, il a été condamné. Des amis journalistes me disent qu'il y a des fortes chances qu'en seconde instance, la condamnation de la première instance soit annulée. Donc on ne sait pas où ça va finir. Mais en tout cas, ce sont des gens à un niveau très élevé.
À la fois Giuseppe Ayala, le procureur, lui vous dit dans le film que il ne verra pas la fin de la mafia en Sicile de son vivant.
Enfin, culturellement, c'est encore
très présent.
J'ai été pas mal de temps là, justement, dans la région de Trapani, d'où viendrait le chef le plus important, qui est pas le chef de Cosa Nostra, mais qui est le chef de Trapani, le chef le plus important aujourd'hui dans la mafia sicilienne. Et qui était un très proche de Totorina, qui est Totorina qui l'a aidé, qui s'appelle Matteo Messina Denaro, dans cette région de Trapani. En effet, la police a des moyens exceptionnels, mais ils n'arrivent pas. La difficulté, c'est quand même encore ce mur d'omerta et les avantages que procure encore financièrement, économiquement et culturellement la mafia par rapport à l'État italien. Et ça, c'est encore quelque chose qui est très présent et qui est très difficile à...
Et au-delà de la Sicile, la ville la plus mafieuse aujourd'hui en Italie, ce serait Milan ?
Non, à Milan, il y a de l'argent. Donc les affaires, elles se font là-bas. Il n'y a pas d'argent en Sicile. Mais quand on est à Trapani, en l'ayant fréquenté beaucoup ces derniers mois, Trapani et toute la région... on a un peu l'impression d'être dans la Sicile des années 80, justement, vers Corleone et Palerme. C'est encore extrêmement... tout est imbriqué, que ce soit la politique avec les mafieux, le système économique, l'omerta, tout y est encore extrêmement présent. Là où à Palerme, aujourd'hui, tout est beaucoup plus, les équilibres sont beaucoup plus fragiles, vu la lutte qu'il y a eu.
Jérôme Pirin, vous allez du côté du Japon, du côté de la Russie. L'Italie, vous regardez un petit peu ce qui se passe?
Oui, je regarde, je suis sans doute moins, beaucoup moins spécialiste que, mais oui, je regarde, je suis, parce qu'on parle de la Cosa Nostra, mais il y a d'autres, organisations mafieuses en Italie. Moi, je regarde un peu la Ndrangheta, qui est l'organisation qui est en cala, parce que les Corléanais, enfin les Siciliens ont fait tellement de bruit qu'ils ont perdu un peu de terrain ces dernières années, à se faire taper dessus, comme on le rappelle depuis quelques temps. Et ça a profité à leur, pas vraiment concurrent, mais en tout cas collègue, confrère calabrais, donc qui était une mafia très rurale, très rustre, très primitive jusque dans les années 80, qui se focalisait autour des enlèvements, etc., etc. Et puis qui a basculé dans le trafic de stupéfiants, un peu comme tout le monde, hein, généralement, mais de manière assez dynamique, et qui est d'un des plus gros opérateurs actuellement en Europe d'importation de cocaïne. Donc c'est ça qui m'intéresse particulièrement. La mafia urbaine aussi, la Camorra, qui est la seule mafia italienne qui n'est pas vraiment pyramidale, qui est une espèce de, qui pourrait ressembler à la pègre française ou au banditisme plus classique qu'on a en Angleterre, en France, en Allemagne, etc., etc. Donc oui, je suis. Puis après, il y a quelques outsiders dans les Pouilles, en Sicile. Voilà, bon, voilà, c'est un.
Mais la Cosa Nostra, ils ont énormément de repentis. Ils ont plus au niveau international. Ils ont une mauvaise réputation. Un magistrat calabrais me racontait qu'aujourd'hui, quand il y a un problème au Mexique, en Colombie, quand ils ont des problèmes avec les narcotrafiquants, c'est la Ndrangheta qui est obligée d'aller aider les gens de la Cosa Nostra. La Cosa Nostra, à l'international, ils ont perdu leur superbe. Il y a tellement de repentis que.
Mais vous avez raison de dire que la capitale de la mafia, en ce sens que la mafia investit son argent, blanchit son argent dans le Nord. Il y a des entreprises de construction à Milan, il y a des entreprises de construction à Turin, avec de l'argent de la mafia. Et il y a une magistrate qui a travaillé avec Falcone, qui s'appelle Hilda Boccassini, qu'on appelle Hilda la Rouge, parce qu'elle est rousse, qui s'est d'abord attaquée à la corruption et à Berlusconi. Aujourd'hui, elle fait un grand travail sur l'infiltration mafieuse à Milan. Donc c'est vrai qu'ils ont tendance à blanchir. Moi, j'ai entendu une écoute où un mafieux calabrais était en train d'acheter, en appelant un notaire à Nice, une clinique. Donc, si vous voulez, disons qu'il y a un transfert de l'argent, et donc, vous n'allez pas faire des affaires en Italie, en Sicile, pardon. Vous n'allez pas faire des. Vous pouvez construire un hôtel, vous pouvez faire du tourisme. Mais en fait, le gros du business, maintenant, c'est transféré vers le Nord. Et c'est l'inquiétude des Italiens.
Pendant ce travail que vous avez mené pour ce documentaire, est-ce que vous vous êtes senti quelquefois menacé? Est-ce que vous avez eu peur?
Non, d'abord parce que je suis tout seul, donc personne ne sait ce que je fais, donc c'est non. Non, je me sens pas menacé. J'ai un regret, je pensais avoir une interview beaucoup plus longue avec l'avocat de Riina, l'avocat historique. Le danger peut venir de lui maintenant, parce qu'il m'a accordé une interview, après je me suis installé chez lui à la campagne, un mois, tout le mois d'août. Et j'ai rien tourné. Et à la fin, il m'a dit non, je ne dirai rien. Donc j'ai tout repris. Et lui, c'est l'avocat du beau-frère, etc. Bon, s'il y a une difficulté, il viendra de là. Voilà, donc je vous le dis. Si j'ai une difficulté,
il viendra de là. On a bien compris. Merci à vous. On reste encore ensemble pour la dernière partie de cette première partie du ENRV. C'est compliqué, non? C'est du live.
All right, let's have a little rumble at the Ritz tonight.
Il est temps de chasser le mauvais œil, Marion Guilbeault, après ce que l'on vient d'entendre.
Oui. Ah non, c'est peut-être le contraire des casques. Allez, échangez vos casques.
Parce que là, ça y est, voilà. Les invités mettent les casques, c'est l'heure du live.
C'est l'heure du live.
Jérôme Pirin en prend deux pour lui tout seul. Allez. Ouais, il joue perso.
Il est comme ça. C'est un live qui commence avec une question, Laurent. Est-ce qu'on assisterait à un retour de flamme pour la musique orientale dans l'Europe de 2019? Moi, ça m'irait très très bien.
Hein. J'ai l'impression, voilà. Sarah Maison, mais voilà, qu'un autre.
Sarah Maison, le western arabisant. En France, on les entend déjà un peu, ces sons venus de l'autre côté de la Méditerranée, dans la trap des frères de PNL, dans le rebetiko électro de Johan Papa Constantino. En Europe, il y a aussi les guitares surf levantine des Turcs d'Altingen, et ça fait un bien fou. Alors la dernière et nouvelle génération à s'emparer de ces sons de façon aussi flagrante depuis la disparition de Rachita, c'est celle de Mauvais Oeil. Mauvais Oeil, ils sont juste là,
ils sont
studio, deux, un duo avec Sarah, qui a été élevée au son du Rail et de Britney Spears. Vous allez voir, ça se ressemble. Il y a un point commun, c'est le mélisme. Et Alexis, multi-instrumentiste, éduqué, lui, au conservatoire, entre musique baroque et guitare manouche. Alors ensemble, ils fantasment sur un Orient sensuel, mystique, où la Cold Wave se jouerait au saz, où les gammes byzantines sonneraient psychédéliques, de quoi enchanter mille et une nuits. Ils viennent d'enregistrer un premier EP, Nuit de velours d'ailleurs, une vraie Ramsa contre le cloisonnement musical. Et le premier titre de Mauvais Oeil, c'est Constantine, cette ville du nord de l'Algérie. C'est une chanson très personnelle, leur clip a été tourné là-bas. Et c'était, je crois, Sarah, un voyage assez particulier.
Oui, tout à fait. En fait, c'est l'histoire d'une jeune adulte qui se rend compte qu'il lui manque des éléments de compréhension d'elle-même. Et donc, la première étape, ça a été de partager ces problèmes-là avec mon partenaire Alexis. Et ensuite, ça nous a amené jusqu'à Constantine. Donc, on a pu exorciser tout ça et voilà.
Et tourner le clip là-bas et oui. Rencontrer, je crois...
Une partie de ma famille qui m'était tout à fait inconnue.
Et c'est ce qu'elle raconte dans la chanson qu'on va entendre.
C'est une belle histoire.
Mais oui.
En live.
En live, dans le NRV, Mauvais Oeil, c'est à vous.
Je n'attends plus de vous aucun.
leur première EP Nuit de velours qui sortira le 20 septembre sur le super label Entreprise, un label qui héberge déjà Fishback, Grand Blanc, Voyou, Bagarre, que des gens de goût qu'on adore ici. Mauvais Oeil sera en concert en première partie Clara Luciani, ce sera à l'Olympia le 10 septembre prochain, à Lyon le 14, au Festival Détonation, c'est à Besançon le 27 septembre, au Mama Festival à Paris le 17 octobre et à Lille le 8 novembre. Prise de son ce soir par les parrains du 621, Fabrice Desmaz et Julien Dumont.
Merci à nos invités, merci Mosco Lévy Boucaud. Je rappelle, le film Corleone est diffusé ce soir en deux parties sur Arte. Il est disponible sur arte.tv jusqu'au 25 octobre et en DVD chez Arte Éditions. Jérôme Pierre, en attendant votre prochain livre ou documentaire sur le sujet, je rappelle la BD documentaire Le Grand Banditisme, une histoire de la pègre française, c'est aux éditions du Lombard. Et enfin, Anne Véron, Corleone, la guerre des parrains et des femmes dans la mafia, marraine ou madone, apparu aux éditions Nouveau Monde. Corleone, la guerre des parrains, c'est un film, hein, ça n'est pas paru aux éditions, voilà, je me suis fait un petit peu mélanger. C'était le NRV, première partie, on va se retrouver dans 15 minutes pour le NRV La Suite, plus de France Inter. Demain au programme du nouveau rendez-vous, ce sera ça.
S'il vous plaît, vous êtes Astérix.
Rix, Astérix.
Astérix fête ses 60 ans et la potion magique tourne à plein régime. En live, Marion, demain, nous recevrons...
On va faire la rencontre de Hervé entre Bachung, Daft Punk, des chansons hybrides.
Mais rien à voir avec Villard.
Rien du tout.
D'accord. Le NRV, c'est Marion Lelay à la réalisation. Programmation, préparation, Virginie Rouzic. Juste après le journal, c'est le NRV La Suite. Deuxième épisode d'une semaine consacrée à Toni Morrison. Alors à tout de suite.
Rendez-vous.